Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition Géopolitique que vous pouvez également écouter en podcast. Le 17 mars prochain, Vladimir Poutine sera réélu à la présidence russe pour un cinquième mandat de 6 ans. Le scrutin doit permettre au chef du Kremlin, au pouvoir depuis 2000, hormis un intervalle comme Premier ministre entre 2008 et 2012, de rester en fonction au moins jusqu'à 2030. L'élection laisse peu de place à l'incertitude. Face à lui, aucun rival, juste quelques candidats pour le décor. L'opposition a été laminée ces dernières années, la répression s'étant encore intensifiée depuis l'invasion de l'Ukraine. La commission électorale a écarté la candidature de la journaliste Yekaterina Dountsova et Boris Nadejdin, qui auraient pu être des éléments perturbateurs dans la campagne en raison de leur expression anti-guerre. Le 8 décembre dernier, en annonçant sans surprise qu'il se représentait, Vladimir Poutine a invoqué la nécessité de défendre la souveraineté de la Russie, justifiant ainsi la poursuite des opérations militaires en Ukraine et la confrontation avec l'Occident. Vladimir Poutine est assuré de remporter l'élection. La seule incertitude tient au score qu'il obtiendra à l'issue de ce scrutin qui, pour la première fois, se tiendra sur 3 jours. Dans un contexte particulièrement verrouillé, regard sur l'évolution du système en Russie, les attentes de la population et des élites, quelles conséquences la réélection de Vladimir Poutine aura-t-elle sur le régime ? Regard avec nos invités, Anne de Tinguy, professeure des universités émérite à l'INALCO et chercheur au CERI, le Centre de Recherche International de Sciences Po, auteur de « Le géant empêtré, la Russie et le monde de la fin de la guerre froide à l'invasion de l'Ukraine » aux éditions Perrin. Bonjour.
Bonjour.
Céline Maranger, chercheuse sur la Russie, l'Ukraine et le Bélarus à l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Céline Maranger qui vient de lancer avec Juliette Cadio une série intitulée « Violence impériale, l'actualité russe du passé soviétique dans le grand continent ». Bonjour.
Bonjour.
Raphaël Auclair, enseignante, chercheuse à l'Institut catholique d'études supérieures, docteur en études russes, spécialiste de la guerre froide et auteur d'un article paru dans le numéro de janvier dernier de la revue Diplomatie autour de « En Ukraine, la Russie veut poser les bases d'un nouvel ordre mondial ». Bonjour.
Bonjour.
Et Serge Astom, reporter indépendant, auteur d'un long reportage texte et photos à travers la Russie en guerre publié dans l'Obs à l'automne dernier, fruit d'un voyage en autostop de la Crimée à Vladivostok, réalisé durant l'été 2023. Serge Astom qui lance en avril un nouveau magazine trimestriel intitulé Invendable qui rassemblera tous les à côté du travail de pigiste. Bonjour.
Bonjour.
Les stratèges du Kremlin veulent faire de cette élection un plébiscite, que ce soit en matière de participation comme de soutien au chef du Kremlin. Poutine, je le disais en introduction, vise une victoire éclatante. En 2018, il l'avait emporté avec 76% des voix. Il veut faire mieux, atteindre 80%. Est-ce qu'on peut parler, Anne de Tinguy, de faux scrutin ?
Oui, tout à fait. Je crois que vous avez résumé la situation dans votre introduction en expliquant que Vladimir Poutine va être réélu dans quelques jours. C'est quand même extraordinaire, une élection où on sait à l'avance avec certitude, où un journaliste peut même se permettre de l'annoncer à l'avance. Ça montre bien que le système est un système qui est complètement... Alors justement, je crois qu'il faudra revenir là-dessus. Je ne pense pas que ce soit complètement verrouillé, mais très largement verrouillé. Un système autoritaire, répressif, avec une concentration des pouvoirs qui est très importante depuis longtemps. Et peut-on ajouter un pouvoir qui est mafieux ? Et dans votre introduction, vous avez souligné que Vladimir Poutine sera élu jusqu'en 2030, c'est-à-dire qu'il aura été au pouvoir pendant 30 ans. Tout cela suggère aussi que les réseaux qui sont en place, on a beaucoup parlé des fameux Siloviki, les structures de force, le FSB et les autres services, mais que les réseaux sont bien en place.
Les réseaux semblaient en place, alors Anne de Tinguy le disait, peut-être un scrutin pas totalement verrouillé. Quelques mots sur les personnalités qui ont été, je le disais en introduction, évincées de la course. La journaliste Yekaterina Dountsova et Boris Nadejdin, deux personnes qui ont été écartées en raison de leur expression anti-guerre. Céline Maranger.
Oui, on peut penser qu'elles ont été évincées. On peut aussi se demander si elles n'ont pas été, si ça n'est pas, leur candidature même n'était pas un projet de l'administration présidentielle, comme ça a pu être le cas par le passé. C'est-à-dire que, comme le disait à l'instant Anne de Tinguy, le système est quand même très verrouillé. Le fait que Boris Nadiejdine, qui a été député à la Douma d'État il y a une vingtaine d'années, qui était élu local en fait, se présente, que sa candidature soit avalisée puis finalement invalidée, pose question. Son nom signifie en russe « espérance ». Et je me demande, je n'ai bien sûr pas la réponse, mais je me demande si ça n'était pas une façon de signifier à la société russe que tout espoir était désormais vain. Et ce que je voudrais dire par rapport à cette élection, c'est que toute la mise en scène autour de l'élection est la manifestation, de mon point de vue, du durcissement du régime auquel on assiste depuis plus d'une dizaine d'années. C'est antérieur à l'invasion de l'Ukraine, ça a été crescendo depuis 2012. Et il y a vraiment eu un tournant significatif au moment de la réforme constitutionnelle qui a permis à Vladimir Poutine de se représenter pour deux nouveaux mandats consécutifs et qui a finalement vidé de sa substance la constitution de 1993 en renforçant les pouvoirs du président et en mettant à mal en fait la séparation des pouvoirs. Et depuis 2020, donc c'est antérieur à l'invasion de l'Ukraine, il y a vraiment une accentuation de la répression contre les opposants politiques qui sont soit emprisonnés, soit contraints au silence ou à l'exil par diverses intimidations ou pressions. Il y a une personnalisation toujours plus grande du pouvoir autour de la personne de Vladimir Poutine qui se présente en chef de guerre. L'opposition politique institutionnelle qui est, elle, autorisée à se présenter, ne représente pas en réalité une opposition. Et la dernière chose, et ça c'est très important à mon avis, et cette élection en témoigne, c'est qu'on assiste aussi à une mobilisation croissante de la société pour la faire adhérer à l'effort de guerre. Dernièrement, il y a eu la divulgation ce qu'on a appelé Kremlin leaks, donc des fuites sur la politique de l'administration présidentielle concernant les élections, justement, concernant la guerre informationnelle et concernant la russification des territoires annexés d'Ukraine pour un budget de 1,1 milliard de dollars, enfin en équivalent, d'euros, pardon. Et l'idée centrale, enfin ce qui apparaît en fait dans cette fuite, c'est que l'administration présidentielle cherche à créer des organisations de façade, comme à l'époque soviétique, pour noyauter la société et pour faire valoir, enfin pour l'influencer en fait.
Alors on va parler, il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit Céline Maranger sur lesquelles je souhaiterais revenir et je vois que Raphaël Auclert souhaite intervenir. Je vous laisse la parole, après ça je me tournerai vers vous Serge Astom.
Je voudrais tout à fait appuyer ce qui vient d'être dit. Effectivement, il y a vraiment un durcissement du pouvoir, un resserrement de la pression. Alors, sans vouloir justifier, moi je suis une observatrice de la vie politique russe, que j'observe effectivement avec les moyens que j'ai, c'est-à-dire ma connaissance de l'histoire russe et soviétique sur la longue durée. Et donc, si on veut essayer d'expliquer un petit peu ce phénomène, enfin, bon, on ne l'a pas encore dit, mais il ne faut quand même pas oublier, donc on l'a mentionné, mais le pays est quand même en état de guerre, donc il faut aussi se rappeler ce qui se passait, nous, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les dispositions n'étaient pas les mêmes. Voilà, la Russie, aujourd'hui, quand on écoute le langage du pouvoir, considère que sa survie est en jeu. Donc, évidemment, le choix du dirigeant, évidemment, est un moment crucial. Donc, ça peut expliquer la pression qui est indéniable et qui fait que bon, l'élection, comme on l'a dit, est jouée d'avance. Et d'autre part, il y a un effet, effectivement, sur lequel, qu'ont mentionné les interventions précédentes. Et je pense que c'est un facteur clé. Là, si on va parler de la vie intérieure russe, il y a une chose qu'il faut vraiment comprendre et effectivement qui corrobore ce qui a été dit sur le durcissement depuis les années 2012. C'est un effet en fait qui est assez classique en Russie comme dans beaucoup de pays, c'est l'effet du vieillissement du pouvoir. Effectivement, si Vladimir Poutine, les choses se présentent actuellement, se maintient jusqu'en 2030, il se devra passer 30 ans à la tête du pays. Et effectivement, alors, nous ne sommes pas ici, des poutinolâtres. Nous ne sommes pas des fans de Poutine. Donc, ce serait quand même dommage d'en faire un Superman et de croire que il est tout puissant, il a tout pouvoir et il suffit de claquer des doigts pour décider tout ce qui se passe dans un pays. Donc, évidemment, il y a ce rôle déterminant de Poutine, on l'a bien vu, hein, qui prend des décisions de politique étrangère, qui est très actif, évidemment, très présent dans les médias. Mais il y a aussi, et ça, on ne peut pas le nier, vraiment un appareil qui lui aussi a vieilli, si vous voulez. C'est un appareil qui a été souvent formé, qui a émergé pendant la perestroïka. Donc c'était des gens qui avaient 20-30 ans à cette époque-là et qui sont aux affaires depuis près de 40 ans. Alors bon an, mal an, ce qu'on a appelé les 90 sanglantes, qui était vraiment le chaos, comme on le sait, après l'effondrement de l'Union soviétique. Mais il y a eu vraiment ensuite petit à petit une caste, hein, on pourrait dire un état profond, des élites, une bureaucratie qui s'est mise en place, qui était peu perceptible au courant dans les premières années 2000 et qui, à partir de 2010, s'est vraiment consolidée et qui, comme toute bureaucratie, eh bien, n'a d'autre but que de se maintenir au pouvoir. Et ça, par exemple, c'est quelque chose d'absolument palpable que j'ai pu constater, par exemple, en discutant avec des collègues universitaires. Il y a vraiment, on pourrait dire, des persécutions, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une bureaucratie extrêmement lourde. Enfin, ils me disent que depuis 2010, ils passent leur temps à faire des papiers, etc. Donc voilà, je voudrais quand même remettre dans le contexte. Voilà, je partage les analyses, mais il faut, comme on est là pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe, voilà, il y a cet état de guerre et également une sorte de sédimentation des élites qui, à mon avis, fait qu'elle s'accroche au pouvoir et qui explique, on aura l'occasion de parler, beaucoup de phénomènes qui pourraient paraître paradoxaux, en fait, hein, dans ce qu'on voit de l'actualité russe, des sortes de signaux faibles qui peuvent surprendre et qui, selon moi, sont dus à cette caste, à cet état profond qui vraiment vise à se maintenir et évidemment, puisqu'on parle des élections, qui vraiment tend à essayer de maintenir le statu quo.
Alors, vous l'avez dit, état de guerre, sédimentation des élites. Pour bien comprendre la manière dont la guerre s'imprègne dans la société russe, Serge Astom, je rappelle que vous avez sillonné la Russie loin de ses capitales, rencontré les Russes de l'intérieur, sans dire que vous étiez journaliste. Vous avez parlé de la politique, de Poutine, de la guerre, avec des centaines de Russes, de Sébastopol, de Grozny, d'Ekaterinbourg, ou de Nikolaïev-sur-Amour. Quel est l'état d'esprit des gens que vous avez rencontrés? Comment la population s'est-elle adaptée à la guerre? Quel impact sur la vie quotidienne?
Alors c'est vrai que par rapport aux élections, c'était encore un peu tôt parce que c'était l'été dernier et ça paraissait lointain, mais quand on en parlait avec les Russes, il y avait une sorte de certitude que Poutine serait de toute manière réélu, qu'il soit favorable à sa réélection ou non. Et par rapport à la situation de guerre, c'est vécu de façon très homogène sur l'ensemble du territoire. J'ai été surpris de le voir. Je pensais en fait au départ partir de Crimée et découvrir donc un pays en guerre avec beaucoup de soldats qui partaient au front, etc. Et plus j'allais m'éloigner, plus je pensais me détacher de ce conflit et je pensais que ça paraîtrait loin en fait aux Russes du bout de la Russie, de l'Extrême-Orient. Et en fait, je me suis rendu compte que cette guerre est omniprésente dans la vie quotidienne des gens, c'est-à-dire qu'elle est à la fois elle concerne des gens qui reviennent du front, qui vont au front, qui ont des familles sur le front ou alors qui ont des familles en Ukraine qui sont elles-mêmes touchées. Il y a beaucoup, beaucoup de liens entre les Russes, d'où qu'ils soient, et l'Ukraine, soit qu'ils aient été élevés là-bas, soit qu'ils soient partis faire des études là-bas, ou bien qu'ils aient de la famille, ou en tout cas, ou alors des amis et des proches engagés dans l'armée russe. Donc ce rapport à la guerre, il est omniprésent et ça explique un petit peu ce que vous disiez sur le soutien aussi à Poutine dans un climat de guerre. Il apparaît comme quelqu'un qui unit la nation dans un moment compliqué et qui du coup soude en fait pas mal de gens, même des gens qui n'ont jamais voté pour lui ou qui s'expriment, qui disent être contre sa politique intérieure. Notamment il y a le problème des retraites qui préoccupe beaucoup de gens en Russie parce que les retraites sont très basses. Et même malgré ça, ou bien les routes qui sont défectueuses, etc., malgré toutes les critiques qui peuvent être adressées à Poutine pendant la guerre, il y a une sorte d'unité et de soutien assez généralisé à son pouvoir. J'étais très surpris par ça, d'autant plus que de notre point de vue ici, c'est vrai qu'on reçoit beaucoup on a une vision de la Russie, de l'opposition, c'est-à-dire les gens qui sont partis s'exiler, qui sont l'élite intellectuelle, culturelle, plutôt occidentalisée, enfin en tout cas anti-Poutine. Et c'est vrai que le décalage est vraiment, c'est le jour et la nuit, quoi, entre ce que disent, ce que racontent, ce que vivent les gens là-bas et ce qu'on peut voir d'ici.
Alors, je vais vous demander votre commentaire, Anne de Tinguy, mais j'aimerais peut-être revenir sur la question d'adhésion de la population russe à l'effort de guerre. Tout cela, c'est pour des raisons essentiellement financières.
Alors, si vous me le permettez, je réagis. Alors, merci beaucoup de ces analyses qui sont toutes très riches et il y a beaucoup de choses à en dire. Je voudrais juste insister sur deux points. Je suis complètement d'accord avec l'analyse de Céline Maranger et j'irai même un petit peu plus loin qu'elle, c'est-à-dire, je crois qu'il faut souligner qu'en fait, dès que Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir, il a commencer progressivement à mettre en place le système politique que nous connaissons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il a commencé par le discours qu'il avait à jeter le discrédit sur la démocratie et l'économie de marché. Et progressivement, le pluralisme politique a été limité, les contre-pouvoirs réduits. Je rappellerai juste que les partis politiques d'opposition ont été sortis du système institutionnel dès 2003. Donc, en fait, c'est un système qui s'est progressivement mis en place. La deuxième chose sur laquelle je voudrais insister, c'est que, Raphaël Auclert, vous avez dit « la Russie est en guerre ». Alors, d'abord, ça n'est pas le terme employé par Vladimir Poutine, nous le savons.
Oui,
Lui parle d'une opération militaire spéciale.
C'est ça. Oui, ça c'est du langage politique, mais on sait bien ce que ça recouvre.
Oui, bien sûr, mais enfin, le fait qu'il utilise ce terme et non pas le terme de guerre et a une signification qui est importante. Mais le point le plus important, c'est que si la Russie est en guerre, c'est parce qu'elle l'a voulu être en guerre. L'agresseur, c'est la Russie. Ne nous trompons pas.
C'est un fait qu'elle est en guerre. Je ne discute pas les causes, mais c'est un fait.
Non, mais je suis d'accord avec vous. Ça n'est pas pour nier ce que vous dites. C'est simplement pour rappeler que si la Russie n'avait pas voulu être en guerre, elle ne l'aurait pas été. Et que d'autre part, en fait, quand on en parlera sûrement de l'issue de ce conflit. En fait, il suffit à Vladimir Poutine de retirer ses troupes pour que la guerre s'arrête. Et donc, la survie de la Russie ou la survie du régime, en réalité, là aussi, s'il y a un problème de survie, c'est pour l'Ukraine et ce n'est pas pour la Russie qu'il y a un problème de survie. Les Ukrainiens s'arrêtent de combattre, l'Ukraine risque de disparaître. Si la Russie retire ses troupes, c'est la guerre qui s'arrêtera. Il y a là quelque chose de tout à fait fondamental.
Excusez-moi, mais si je peux me permettre, comme je vous l'ai rappelé, vous étiez mon professeur et j'écoutais attentivement vos conférences. Et je me rappelle très bien que quand vous nous parliez de la guerre froide, vous disiez que dans la guerre froide, il y a quatre acteurs, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait à l'époque donc, l'Union soviétique, les États-Unis, et d'autre part, la perception qu'avait l'Union soviétique des États-Unis et la perception qu'avait les États-Unis, l'Union soviétique, qui étaient parfois des choses très différentes. Alors, ce que vous dites sur les causes et le fait que Vladimir Poutine ait souhaité s'engager, bon, voilà, il y a plusieurs opinions sur ce sujet. Bon, le débat est ouvert, chacun a sa position et la vôtre est tout à fait défendable.
C'est la Russie qui a envahi l'Ukraine, ça c'est incontestable.
Ah oui, la Russie a envahi l'Ukraine, je suis bien d'accord. Mais en ce qui concerne la perception, là, cette perception-là, par la Russie qu'elle joue sa survie, c'est ce que les Russes perçoivent. C'est ce qu'ils pensent.
C'est ce qu'ils entendent surtout
c'est
du pouvoir
leur point
en face à Moscou.
C'est ce qu'ils disent. Alors, on peut le contester, mais c'est quand même intéressant de tenir compte de leur point de vue. C'est comme ça qu'ils le vivent. Voilà, et c'est aussi parfois source de beaucoup de malentendus. Mais c'est comme ça qu'ils le vivent, en tout cas.
Mais ça, c'est toute la propagande mise en place. Serge Astom, vous souhaitez intervenir?
Si je peux me permettre, c'est vrai que je rejoins un petit peu ce que vous dites au niveau de la perception. Je suis d'accord avec vous sur les causes, mais enfin, sur la perception du conflit, c'est vrai que de là-bas, les Russes que j'ai pu rencontrer, par exemple, en Crimée, qui vivent en Crimée en ce moment, ou les Ukrainiens de Crimée qui continuent à vivre là-bas et qui soutiennent, en fait, le gouvernement russe, considèrent qu'ils sont les agressés, en fait, dans cette histoire, et que Poutine a défendu. Ce que je ne dis pas, mais en tout cas, c'est comme ça que c'est vécu là-bas, et les gens à travers tout le territoire combattent vraiment pour considèrent avoir été agressés par l'OTAN,
etc. C'est ce qu'ils entendent sur les chaînes de télévision, j'imagine.
Oui, c'est ce qu'ils pensent aussi, sincèrement.
On poursuivra, on vous retrouve, Serge Astom, avec Anne de Tinguy, Raphaël Auclert et Céline Maranger. Après le journal, à tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Regard sur la Russie à l'occasion des élections présidentielles qui se termineront le 17 mars prochain. Nous retrouvons nos invités, Anne de Tinguy, professeur des universités émérite à l'INALCO et chercheur au CERI, Centre de recherche internationale de Sciences Po. Céline Maranger, chercheuse sur la Russie, l'Ukraine et le Bélarus à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Raphaël Auclair, enseignante chercheuse à l'Institut catholique d'études supérieures. Et Serge Astom, reporter indépendant. Serge Astom, je vous ai coupé la parole pour laisser la place au journal sur la perception de la guerre très rapidement. Après ça, je voudrais qu'on aborde les questions de l'opposition en Russie. Est-ce que le système est complètement verrouillé? Et qu'on parle aussi d'Alexei Navalny et la question de savoir en quoi faisait-il peur à Vladimir Poutine. Serge Astom.
Oui, c'est vrai que ça dépasse un petit peu le cadre de la présidentielle et du sujet, mais c'est vrai que la propagande de guerre existe en Russie en ce moment parce que c'est un état de guerre que vivent les Russes, même si le pouvoir ne l'appelle pas comme ça. Mais au-delà de la propagande, c'est quelque chose, c'est une pensée, c'est une façon de voir le conflit et le monde qui est vraiment ancré dans les familles, chez les gens, quand ils en parlent. C'est pas seulement un système un peu de perroquet de la télé, c'est aussi vraiment des histoires personnelles ou bien des parcours qui donnent vie à ces discours.
Céline Maranger.
En fait, ce discours de confrontation avec les pays occidentaux, ça fait écho à des poncifs de guerre froide et ça fait écho à toute une mythologie dans laquelle, en tout cas, les Russes assez âgés qui sont nés en Union soviétique peuvent se référer. Et de manière très habile, par exemple, au début de l'invasion de l'Ukraine, ils ont présenté le pouvoir ukrainien comme des fascistes, des nazis. Ce qui était une façon de convaincre la population russe de la nécessité de combattre en Ukraine, comme les aïeux l'avaient fait au moment de la Seconde Guerre mondiale. Donc ils ont vraiment réussi à manipuler la population d'une certaine manière en leur faisant croire que la Russie, qui est l'État agresseur, serait en fait agressé de longue date et n'aurait eu d'autre choix que d'agir, non pas en représailles, mais de manière préemptive.
On revient sur la question de la campagne. D'abord, est-ce que la guerre a été très présente dans la campagne? Je le disais en introduction de l'émission, Poutine a face à lui trois candidats. Je les nomme, Léonid Sloutsky, vous me pardonnerez pour mes mauvaises prononciations, mais je ne suis pas russophone, du Parti libéral-démocrate, Nikolai Karitonov du Parti communiste, Vladislav Davankov du Nouveau Peuple. Qu'est-ce que cela veut dire? Bon, bien sûr, je le disais, ce sont des candidatures pour le décor. Et je rappelle aussi qu'en 2018, Vladimir Poutine avait emporté l'élection avec 76,6% des voix. Il veut faire mieux aujourd'hui, atteindre les 80%. Pourquoi aussi une élection sur 3 jours, Anne de Tinguy?
Oui, une élection sur 3 jours de façon à avoir davantage de personnes qui vont aux urnes. Rappelons-le que le territoire de la Russie est absolument immense. Et donc, je pense qu'il y a là un souci qui est à la fois pratique et politique. Enfin, c'est comme ça que je l'ai interprété. Alors, vous avez rappelé qu'il y a trois candidats face à Poutine. Trois candidats pour une élection présidentielle, c'est vraiment pas beaucoup. Vous en avez cité deux autres qui n'ont pas été qualifiés par la Commission centrale de contrôle. Et les sondages qui sont faits, alors je suis très méfiante à l'égard de tout ce qui est sondage en Russie, parce que quand il n'y a pas de liberté de parole et quand on est dans un système répressif, eh bien, il est clair que les opinions qui sont exprimées sont à prendre avec beaucoup de réserves. Il n'en reste pas moins qu'il y a un sondage qui a été fait par un centre Vachenfield qui est considéré comme fiable à la fin du mois de février et qui montre que 85% des personnes interrogées sont prêtes à voter pour Vladimir Poutine et les trois autres remporteraient 6%, 5%, 4%. Donc vous voyez, c'est absolument négligeable. Donc là, on a un système qui apparaît totalement verrouillé. Et la question qu'on peut se poser, c'est justement de savoir, est-ce que ce système est complètement verrouillé? Et on a eu un élément de réponse, parce que là aussi, il est difficile de s'appuyer sur les sondages. On a eu un élément de réponse au moment des obsèques d'Alexei Navalny, avec ces milliers de personnes qui ont bravé et surmonté la peur et qui ont été rendre un hommage à Alexeï Navalny. C'était courageux de leur part.
À visage découvert en plus. Ils ont fait la une des journaux occidentaux.
Absolument, et qui n'ont pas hésité à répondre à des journalistes et en exprimant leurs opinions. Puis d'autre part, il y a eu tous ces slogans anti-Poutine qui ont été exprimés. Et donc, des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes, c'est énorme et c'est faible. C'est énorme dans le contexte que nous vivons. En même temps, c'est faible par rapport aux quelques 140 millions de Russes habitants de la Russie. Et d'autre part, au moment des obsèques de Boris Yeltsin, un autre opposant de premier plan qui a été lui aussi assassiné par le régime poutinien, eh bien, c'était un nombre beaucoup plus important de personnes qui avaient été manifestées le jour de ces obsèques. C'est-à-dire qu'on a à la fois un système que le pouvoir souhaite verrouiller, un pouvoir qui a très peur pour sa survie, et je rejoins ce que disait Raphaël Auclair, il est clair qu'une des explications de la guerre, c'est la peur de perdre son pouvoir, et puis une société qui est très encadrée, très contrôlée, et qui, de par une propagande qui a été extrêmement forte depuis le début du régime poutinien, en fait, est très canalisée, mais il n'y a pas de contrôle total de la société.
Alors, moi, j'aimerais comprendre aussi quel lien entre la guerre d'Ukraine et la peur de Vladimir Poutine de perdre le pouvoir. Et là aussi, j'en reviens à Alexeï Navalny. Pourquoi cette mort ou cet assassinat en pleine campagne électorale? Vladimir Poutine avait-il peur d'Alexeï Navalny, Raphaël Auclair?
Je ne pense pas du tout qu'il avait peur de lui. Alors déjà, j'aime quand même avoir les résultats de l'enquête avant de me prononcer. Pour l'heure, alors vous allez trouver que c'est prévisible. Donc Narychkine, le chef des services de renseignement russes, a décrété que c'était une mort naturelle. Ce n'est pas très surprenant. Chose plus surprenante, c'est que le chef des services de renseignement ukrainiens, Kirill Budanov, a déclaré le 25 février que c'était une mort naturelle. Alors, je pense qu'on ne connaît pas la vérité, peut-être qu'on ne la connaîtra pas. Je ne pense pas que ce soit, en tout cas, Vladimir Poutine qui ait fait assassiner Navalny. Il n'y avait absolument aucun intérêt et que des coups à prendre. Ce pourrait être, justement, l'état profond que j'ai mentionné avant, parce qu'effectivement, Navalny jouait un peu le rôle de poil à gratter, il mettait toujours son nez dans les affaires de corruption, etc. Donc c'est vrai que voilà, c'est le trouble fait, ça peut se comprendre. Enfin, je veux dire, les intérêts de cette caste au pouvoir, évidemment, étaient menacés par cet opposant. Mais concrètement, il ne pesait rien. C'est tragique à dire. Et en le disant, je suis. Moi, quand je l'ai appris, j'étais sincèrement peinée. Mais il faut bien le dire qu'il meurt en martyr, finalement. Et d'ailleurs, c'était pour cette raison que Vladimir Poutine n'avait absolument aucun motif pour le tuer, parce que, évidemment, ainsi, tout son capital symbolique explose. Il devient le martyr de Poutine et il s'est passé ce qui était prévisible, c'est-à-dire série de sanctions, condamnation générale internationale. Il le savait très bien et c'est vraiment, mais alors vraiment pas du tout, actuellement, justement, en période électorale, c'est pas du tout le genre de coup de com' que Vladimir Poutine pouvait chercher. Dernière chose, je pense, je voudrais quand même aussi remettre un peu dans le contexte, on a une espèce de, on est un peu une fascination glamour pour Navalny, c'est vrai qu'il est assez bel homme, etc. On s'imagine que c'est...
Pas ça seulement, c'est tout le travail qu'il a fait.
Oui, il a fait un travail, etc. Mais il est devenu une icône, si vous voulez, qui va au-delà de... on en fait une icône, on fait des portraits, etc. Enfin, il est devenu un mythe. Je pense que c'est largement surestimé. Anne de Tinguy mentionnait les 10 000 personnes. 10 000 personnes pour une ville, pour Moscou, pour comme 140 millions d'habitants.
Il faut juste rappeler aussi que participer à une manifestation en Russie, très souvent, d'opposition au pouvoir en place, on finit avec des tracas, voire un emprisonnement. Céline Maranger.
Je trouve que les funérailles nous donnent beaucoup d'indications sur la fébrilité du pouvoir. C'est-à-dire que pendant 10 jours, ils ont tergiversé, ils ont fait croire à la mère et à la veuve de Navalny qu'ils ne rendraient pas le corps. Finalement, le corps a été rendu. Les obsèques ont eu lieu le jour même des obsèques du dernier chef de gouvernement soviétique, Nikolaï Ryzhkov, qui a eu, lui, droit à une cérémonie religieuse dans la cathédrale Saint-Sauveur, juste en plein centre de Moscou avec toute la pompe et qui a eu le droit, évidemment, le soir même, à la une des journaux télévisés. Donc ça montre bien à la fois le fait qu'ils aient comme ça, qu'il y ait eu tous ces atermoiements sur la question de rendre le corps à la famille et sur l'organisation même des obsèques, qu'il y avait une forme d'inquiétude concernant le déroulement de ces obsèques. Et je suis en désaccord avec ce qui a été dit précédemment. Pour moi, la foule aux funérailles, c'est que de plusieurs kilomètres, le lendemain et le surlendemain, de l'enterrement, cette volonté en fait de simples Russes de vouloir rendre hommage à la personne de Navalny a une signification politique. Dans un pays où, comme vous venez de le rappeler, il est risqué de participer à une manifestation non sanctionnée, ça n'est pas anodin. De mon point de vue, c'est le signe que le combat de Navalny contre la haute corruption avait une résonance forte dans la société, en fait. Ils étaient, je pense, sincèrement désolés du fait qu'il a payé de sa vie son courage politique et qu'il a payé de sa vie son engagement patriote pour une autre Russie.
On peut rappeler qu'il avait été empoisonné, hospitalisé en Allemagne, à Berlin, de mémoire, et qu'il a pris la décision de retourner en Russie, sachant le sort qui lui serait réservé. Et de fait, dès son arrivée à Moscou, emprisonné. Et ensuite, je laisse parler Serge Astom un instant, et je vous passe la parole à notre Tanguy. Serge Astom.
Oui, excusez-moi de vous prendre la parole. C'est que je voulais réagir à ce que vous disiez sur le fait qu'effectivement, il a choisi de revenir. Et que c'était un geste fort et que c'était aussi pour ça qu'il l'a fait. C'est-à-dire que l'opposition russe n'existe pas vraiment dans le discours, en tout cas quotidien des Russes, de ceux que j'ai rencontrés, parce qu'ils ne sont pas là. En fait, l'élite de l'opposition est en exil. Il a fait ce choix de revenir et du coup de mourir comme un symbole et devenir ce martyr dont vous parlez. Son choix qui est assez courageux, c'est à mettre en opposition avec le fait que les gens qui sont dans l'opposition en Russie sont assez isolés. Moi, j'en ai rencontré très très peu vraiment de gens qui étaient dans l'opposition à Poutine. Dans l'opposition à la guerre, la majorité des gens se disent contre la guerre, mais par contre disent soutenir l'armée russe parce qu'ils considèrent avoir été attaqués, comme on l'a dit tout à l'heure, mais tous se disent pour la paix. Même s'ils sont contre Poutine, ils le soutiennent dans la situation actuelle. Et par rapport à l'opposition interne, ce que j'ai pu constater moi en y étant, j'ai rencontré par exemple cet homme à Yekaterinbourg qui vivait très isolé, qui m'expliquait que 99% des gens autour de lui étaient pro-Poutine et qu'il était seul à être anti-guerre et pour l'Ukraine dans ce conflit. Il était désespéré parce qu'il ne pouvait en parler à personne, parce qu'il considérait qu'il était en danger s'il en parlait par rapport à son travail, par rapport à ses amitiés, etc. Parce qu'il faut bien imaginer que les familles, les amis, etc. sont engagés dans ce conflit, ont des morts, etc. Et lui, la seule manière qu'il avait de résister, c'était de photographier les derrières de voitures où les Russes favorables à la guerre mettent le Z de soutien. Il les prenait en photo avec les plaques d'immatriculation pour un jour espérer qu'il y ait une sorte de jugement de l'histoire sur ces personnes, pouvoir les répertorier. Il y a d'autres personnes que j'ai rencontrées aussi qui étaient contre la guerre, qui étaient contre Poutine, qui étaient plutôt libéraux, une jeunesse libérale, européanisée, plutôt dans un point de vue assez occidental. Mais ils étaient pareil, ils disaient que les manifestations auxquelles ils ont pu participer au départ, elles ont été très réprimées, du coup ils n'osaient plus sortir. Et j'ai aussi constaté dans un tout petit village au fond de l'Extrême-Orient, un tag, un jour, un monsieur qui était contre aussi la guerre et contre Poutine, qui était très isolé aussi, qui n'en parlait pas à ses collègues, qui arborait tous des signes favorables à l'armée russe. Il m'a montré à sa fenêtre, il y avait un tag qui avait été mis pendant la nuit sur un mur, qui insultait Poutine. Il a été effacé dans l'heure, mais parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est aussi une logique de guerre qui fait qu'en fait, il n'y a aucune tolérance à la déviance par rapport à cet objectif national.
Anne de Tinguy.
Je ne voudrais pas prendre la parole trop longtemps, mais juste revenir sur deux ou trois points qui me paraissent essentiels. La question de l'assassinat, vous avez tout à fait raison de souligner qu'on ne sait pas ce qui s'est passé la veille de la mort. Et donc, quand je parle, je maintiens mon terme d'assassinat, je ne fais pas référence à quelque chose que je ne connais pas, c'est-à-dire ce qui s'est passé la veille de sa mort. Mais par contre, je rappellerai ce que vous avez mentionné, c'est-à-dire que Alexeï Navalny a été traité de telle façon que finalement, il a bien été assassiné. Rappelons qu'il a été empoisonné, vous l'avez dit, en 2020, et que d'autre part, il a eu des conditions de détention à partir du moment où il est revenu à Moscou, qui étaient tout simplement abominables et inhumaines. Et donc, on savait qu'après son empoisonnement, il avait un état de santé qui était très mauvais. Et donc, dans ces cas-là, on sait où les mauvaises conditions de détention mènent. Deuxième point, sur la question de savoir si Poutine avait peur de Navalny, moi, je suis convaincue que oui. Justement, parce que, comme vous venez de le souligner, Vladimir Poutine ne supporte pas la moindre voix discordante. Et à l'appui de cette affirmation, on peut citer les nombreux assassinats. Il y a une violence politique qui est au cœur du régime poutinien, qui est extrême. On peut citer, rappeler Boris Nemtsov, non seulement Navalny, mais aussi les journalistes, Anna Politkovskaya, etc. Et enfin, troisième point sur la question de ce que représente Navalny. Ce qui m'impressionne le plus, c'est le courage politique extrême qu'il a manifesté. Et il restera pour beaucoup de Russes un symbole d'une autre Russie. Ça n'est pas idéaliser Navalny, mais c'est tout simplement souligner qu'il représentait une autre Russie que celle de M. Poutine et qu'il a eu un courage tout à fait exceptionnel.
Alors, le temps tourne. J'aimerais qu'on aborde deux questions pour poursuivre un petit peu sur le registre que nous évoquons depuis un moment. Alors, les femmes, c'était le 8 mars, la journée internationale des femmes. Quel rôle les femmes ont aujourd'hui en Russie dans l'opposition ou le soutien à Poutine? Et puis, les Russes qui vivent hors de Russie, est-ce qu'ils se font suffisamment entendre? Raphaël Auclair.
Écoutez, c'est un thème extrêmement vaste.
Par exemple, les femmes d'hommes qui partent en Ukraine, ah oui, que l'on voit commencer à protester, à manifester.
Oui, vous avez raison. Alors, effectivement, je voudrais mentionner justement à ce sujet une femme qui s'appelle Anna Tsivilyova, qui est une femme très intéressante parce que justement, elle a pris en main, ou on lui a confié du moins, le destin de nombreuses femmes, épouses, mères de soldats, puisqu'elle dirige depuis avril 2003 la Fondation des Défenseurs de la Patrie. Donc c'est une responsabilité extrêmement importante. Parce que, justement, depuis, dans l'histoire russe, le rôle des soldats revenus du front et de leur famille, de leur femme, de leur mère, a toujours été très important. On se souvient de la révolte des décembristes en 1825, de la révolution de février de 1917, de la guerre d'Afghanistan, qui, à chaque fois, avait créé vraiment des ondes de choc et qui avait vraiment déstabilisé le régime. Et donc, Anna Tsivilyova, qui d'ailleurs n'est pas sans lien avec Poutine, puisqu'elle est de la famille de Poutine, a été placée par Poutine à la tête de cette organisation qui est appelée à jouer un rôle décisif et qui joue d'ailleurs déjà un rôle important puisqu'elle... J'en parle non pas pour faire de la pub, mais parce que vous demandez le rôle des femmes. Et cette femme a un rôle politique déterminant, puisque d'une certaine manière, elle gère les cas extrêmes qui reviennent. Donc, elle est chargée d'organiser un petit peu toutes les situations de détresse dans lesquelles se retrouvent les familles, soit de personnes qui sont tombées au front, qui reviennent blessées, etc. Donc, d'organiser au niveau matériel. Et elle mentionnait récemment qu'elle avait eu 700 000 personnes qui s'étaient adressées à son organisation pour régler. Et je pense que justement, alors elle a un rôle clé dans l'élection présidentielle pour justement gérer ce mécontentement, ce contre-coup de la guerre qui pourrait effectivement très fortement déstabiliser le régime.
Merci Raphaël Auclair. Alors désolé, pas le temps de parler des Russes vivant hors de Russie. On le fera demain parce qu'il y aura un deuxième volet à cette émission. Raphaël Auclair, je rappelle que vous êtes enseignante chercheuse à l'Institut catholique d'études supérieures, docteur en études russes, spécialiste de la guerre froide. Céline Maronger, chercheuse sur la Russie, l'Ukraine et le Bélarus à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Anne de Tinguy, professeure des universités émérite à l'INALCO et chercheur au CERI, le Centre de recherche internationale de Sciences Po, et Serge Alstom, reporter indépendant. On vous retrouve tous les quatre dans l'émission de demain où nous axerons le propos peut-être davantage sur la Russie dans son environnement régional et mondial. Géopolitique était signée Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Nathalie Laporte. Place au Journal Afrique.